Essentiel. Bien plus que de la radio.
L'actu parle, Sophie et Lauriane.
Alors que la France vient d'essuyer des intempéries meurtrières dans la région de l'Aude, le réchauffement climatique est plus que jamais au cœur des préoccupations. Ce week-end, ce sont pas moins de 80 marches pour le climat qui ont mobilisé les citoyens dans plusieurs grandes villes de France.
A-t-on raison de s'inquiéter? Peut-on encore changer la donne? C'est un expert en la matière qui a accepté de répondre à toutes nos questions.
Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles. Bonjour Freddy Boucher.
Bonjour.
Alors merci d'avoir accepté notre invitation dans les studios d'Essentiel Radio, c'est un plaisir de vous recevoir.
Merci beaucoup pour cette invitation, je suis très heureux moi aussi d'être là avec vous.
Alors vous êtes directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de physique de l'ENS de Lyon, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, oui.
Alors en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous parler de votre métier, en quoi ça consiste exactement?
Donc je fais partie d'un laboratoire de physique qui étudie tous les domaines de la physique à l'École normale supérieure de Lyon. Et puis on a un petit groupe de collègues qui travaillons sur le climat et plus spécifiquement sur l'étude des événements rares dans le système climatique. Récemment, on a par exemple travaillé sur la prédiction des canicules extrêmes en Europe.
Alors, on va en parler plus précisément dans quelques minutes. Donc, mis à part l'incontournable échange sur le temps qu'il fait, le dérèglement climatique fait régulièrement la une des journaux. Mais faut-il s'en inquiéter? On écoute quelques réactions recueillies dans notre micro-trottoir.
Je pense, oui.
Oui, bien sûr. C'est une cause importante, surtout depuis l'industrialisation. C'est vraiment un point sur lequel il faut s'intéresser rigoureusement ces dernières années.
Si on ne s'inquiète pas, la Terre va mourir petit à petit à cause justement à la fois de la météo, mais des désastres climatiques qui peuvent être provoqués justement par des catastrophes naturelles. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut qu'on s'y mette tous pour pouvoir changer le climat et faire des efforts pour se bouger pour l'environnement.
Évidemment qu'il faut s'inquiéter du climat. C'est quelque chose d'important et je pense que ça devrait être un objectif principal dans les années à venir en politique.
Alors Freddy Boucher, a-t-on raison de s'inquiéter?
Oui, on voit que maintenant la plupart de la population sait qu'il y a un problème avec le réchauffement climatique. Et comme l'a dit le premier intervenant, c'est quelque chose qu'on observe depuis le 19e siècle. Et donc on voit progressivement la température de la Terre s'élever. Et on sait que cette élévation de la température est liée aux émissions de dioxyde de carbone. Alors ce n'est pas seulement la température, on observe en fait tout un ensemble de phénomènes qui sont reliés au réchauffement climatique et qui donnent une image cohérente de ce qui est en train de se passer. Par exemple, on observe une montée des eaux dans les océans, on observe des fontes de la glace, on peut l'observer tout proche d'ici dans les glaciers alpins, mais on l'observe partout dans le monde. On l'observe aussi dans les banquises arctiques et au niveau antarctique. Et puis on observe aussi une augmentation de la fréquence des extrêmes, et donc une acidification des eaux des océans. Donc il y a tout un ensemble de phénomènes qui corroborent le fait qu'il y a en ce moment un réchauffement climatique.
Alors on parle de réchauffement climatique, de dérèglement climatique, mais aussi d'événements climatiques exceptionnels. De quoi s'agit-il exactement, si vous deviez donner quelques courtes définitions?
Ce qu'on appelle les événements climatiques exceptionnels ou extrêmes, c'est en fait les événements de météorologie ou de climat qui ont un fort impact sur nos sociétés, soit sur la population, soit sur les villes, soit sur les biens, ou alors simplement sur la nature, sur les écosystèmes. Donc c'est des événements qui ont toujours existé, qui vont toujours exister. Les exemples les plus classiques, c'est par exemple une canicule qui peuvent être très extrêmes et créer beaucoup de décès, comme on l'a vu par exemple en 2003 en Europe. On en a eu une cet été qui était beaucoup plus modeste. Ou ça peut être des tempêtes, ou ça peut être des cyclones tropicaux, ou des inondations, des sécheresses. Donc l'ensemble de ces phénomènes que l'humanité a toujours connus ont une fréquence qui peut varier avec le changement climatique. Et donc l'une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que cette fréquence va augmenter avec le changement climatique?
Eh bien, c'est justement la question qu'on a posée dans notre micro-trottoir. Est-ce que ça a tendance à se dégrader au fil des ans? Eh bien, on écoute et là aussi, on vous laisse réagir.
Oui. Tout à fait.
Oui, bien sûr. On a plein de preuves qui nous montrent que c'était pas comme ça avant. C'est vraiment ces 50 dernières années.
Un peu quand même.
Pas vraiment, non. Il faut pas parler de réchauffement climatique, il faut parler de changement climatique, c'est pas la même chose.
Oui, ça c'est une évidence et on a encore 2 ans pour rattraper le processus, il me semble, c'est ça. Donc c'est urgent d'agir maintenant. Je sais qu'il y a plein de trucs qui se développent pour qu'il y ait des initiatives et tout par rapport à ça et c'est vachement intéressant.
Alors Freddy Boucher, est-ce que c'est une évidence? Est-ce que ça s'est vraiment dégradé ou comme le laissent entendre certains climato-sceptiques, c'est finalement le cycle de la nature?
Alors les deux sont vrais en fait. Il y a des cycles de la nature, c'est des phénomènes qui ont toujours existé. Et donc pour bien comprendre, il faut comparer sur le long terme l'évolution du nombre de ces événements qu'on observe. Alors pour certains cas, par exemple pour les canicules extrêmes, là on est presque certain, on peut dire qu'il va y avoir une dégradation. Et ça, c'est facile à prédire parce que c'est lié justement au réchauffement climatique. Pour d'autres choses, on a une quasi-certitude aussi. Par exemple, le niveau des océans va augmenter. Et là, on comprend très très bien le mécanisme. Le mécanisme est simple et est directement lié à la température. Après, il y a d'autres problèmes pour lesquels les connaissances sont moins précises et on a besoin de faire encore pas mal de recherches. Par exemple, on sait qu'il va y avoir beaucoup plus d'inondations et de précipitations extrêmes, mais on ne sait pas forcément où elles seront localisées. De manière générale, dès qu'on cherche à comprendre les choses et qu'on cherche à avoir des informations précises au niveau de la localisation, à ce moment-là, les questions sont beaucoup plus difficiles. Donc la dame qui est intervenue, qui a dit qu'il ne fallait pas parler de réchauffement, mais qu'il fallait parler de changement climatique, bon, elle n'a pas tout à fait tort, en fait. Il y a effectivement un réchauffement, mais il y a aussi plein d'autres changements, comme par exemple l'acidification des océans, ou la montée des eaux, ou l'impact sur la biodiversité, qui sont des changements beaucoup plus globaux et qui ne concernent pas seulement la température.
Alors, on va rester justement sur les causes principales du dérèglement climatique. On a posé la question dans notre micro-trottoir, on écoute les réponses.
Les causes, je dirais que c'est l'homme en partie. Après, il y a toujours la nature qui se dérègle normalement, puisque c'est des cycles. Mais en grande partie, c'est l'homme et c'est ça qui est alarmant, en fait.
Diverses, déjà, nos modes de vie qui ont évolué. Le fait qu'on soit passé d'un mode de vie qui était plutôt assez agriculture, assez campagnard, à maintenant qui est devenu très industriel, très ville et qui laisse plus assez de place à la nature et à notre environnement.
On a trop tiré sur les ressources de la planète. On arrive à les épuiser dans certains pays à partir de mars pour l'année en cours et c'est vraiment très grave, on vit au-dessus de nos moyens. Il faut aussi qu'on fasse en fonction de l'endroit sur lequel on habite, ce qui ne peut pas tout nous donner.
Enfin, on impacte le mode de vie, peut-être que c'est ça, ouais, l'agriculture intensive, les machins comme ça. Ouais.
L'élevage abusif, la pêche abusive. Les usines, les voitures, enfin tout ça, on le sait quoi.
Alors Freddy Boucher, vous nous avez donné déjà quelques éléments de réponse, mais est-ce que l'homme serait le coupable de tout ?
La façon dont l'homme agit sur le climat, c'est en brûlant des carburants fossiles, par exemple le charbon, le gaz naturel fossile ou le pétrole. Et donc ceci émet du dioxyde de carbone dans l'atmosphère ou d'autres gaz à effet de serre. Et on sait que ces gaz-là jouent un rôle très important pour déterminer la température de la Terre. Donc ça, c'est une des causes. C'est pas la seule. Il peut y avoir des causes naturelles, effectivement. Mais maintenant, on a une quasi-certitude que le réchauffement qu'on a observé depuis un siècle est dû en grande partie à l'effet du dioxyde de carbone, donc à l'effet de l'homme. Et donc effectivement, comme ça a été dit par plusieurs personnes, ces émissions de dioxyde de carbone, elles sont liées donc à l'énergie. Et donc l'énergie, c'est quelque chose de fondamental dans nos sociétés. Quand on parle d'énergie, on parle de notre nourriture, on parle de la façon dont on chauffe nos maisons et nos bâtiments, on parle de nos moyens de transport. Et donc ça touche vraiment à quelque chose de fondamental dans nos modes de vie et dans la façon dont nos sociétés sont organisées.
Alors, on a parlé des causes. En ce qui concerne les conséquences, Freddy Boucher, quel impact à moyen et à long terme la récurrence de ces événements climatiques aura-t-elle sur notre planète et plus généralement sur notre société ?
Alors, les conséquences, ce qui est important de comprendre, c'est qu'elles sont vraiment diverses et variées. Tout à l'heure, on a parlé des extrêmes climatiques. Et donc, c'est surtout par l'intermédiaire des extrêmes qu'on va avoir les conséquences les plus marquantes. Et probablement que la chaleur elle-même, la canicule, va être quelque chose qui va le plus impacter les populations. On parle même dans certains pays, comme le nord de l'Inde, au sud de l'Himalaya ou l'ouest du Bangladesh, que des régions entières du globe qui sont très peuplée pourrait devenir inhabitable. Donc j'espère que c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Ça, c'est dans le cas où on n'agirait pas. Mais à ce moment-là, on parle vraiment de disruptions qui sont gigantesques sur les populations. Alors un autre problème très important, c'est par exemple la montée des eaux. Et ça peut impacter beaucoup de pays, en Europe, par exemple, aux Pays-Bas, mais des pays beaucoup plus pauvres comme le Bangladesh ou toutes les îles du Pacifique. Et donc ça, c'est des impacts qu'on voit déjà et auxquels on va devoir répondre très très, très prochainement.
Alors, des îles de rêve englouties, des grandes villes comme Amsterdam, Tokyo, Miami, envahies par les eaux. On croirait presque le teaser dans le film Catastrophe. Et pourtant, certains experts en parlent sérieusement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la face du monde va réellement changer dans les années à venir?
Écoutez, je sais pas et j'espère pas. Mais donc, tout va dépendre de notre action. Disons qu'il y a des changements qui ont déjà eu lieu, des changements importants. Il y en a d'autres qui auront lieu. Et on espère qu'ils vont être limités et que les scénarios catastrophes dont vous parlez seront évités. Mais il est important de comprendre que ce sont des scénarios possibles. En fait, si je peux rajouter quelque chose sur les conséquences, on voit que les conséquences, elles sont très très variables au niveau géographique. Ça ne va pas du tout affecter de la même manière les différentes régions du monde. Ça ne va pas du tout affecter de la même manière les différentes populations en fonction de leur âge, en fonction de leur niveau de richesse. Et donc, le problème du réchauffement climatique, c'est avant tout un problème éthique. C'est un problème éthique parce que c'est un problème pour lequel les personnes qui sont à la source des principales causes ne sont pas forcément celles qui vont subir les conséquences. Donc, pour cette raison-là, toutes les personnes qui s'intéressent à l'éthique voient dans le réchauffement climatique vraiment un problème fondamental et qu'on doit tous adresser de façon très décidée.
Alors, si on pouvait prédire l'avenir, Freddy Boucher, c'est un peu plus complexe que ça. Vous travaillez sur un algorithme qui permet de prévoir l'amplitude et la récurrence des accidents climatiques extrêmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui, alors avec mes collègues de l'ENS de Lyon, on a fait le constat que, justement, pour les prédictions locales des extrêmes, les modèles qui sont utilisés actuellement ont un certain nombre de limitations. Donc on arrive bien à comprendre qualitativement les choses, mais il est beaucoup plus difficile de donner des résultats quantitatifs. Et donc un des problèmes, c'est qu'un événement extrême, c'est quelque chose qui apparaît très très rarement, et donc ça nécessite de faire des calculs très très longs avec des modèles qui sont très complexes. Et souvent, on n'est pas capable de faire ça. Et donc pour répondre à ce problème, on a cherché un algorithme qui permettrait d'être beaucoup plus efficace et qui permettra d'étudier beaucoup mieux les extrêmes qui sont produits par ces modèles de climat.
Et quels sont justement les effets attendus de cette recherche?
Donc les effets attendus, c'est de pouvoir améliorer les outils qui sont utilisés par les climatologues pour pouvoir étudier les extrêmes et pour pouvoir répondre à des questions qui, pour l'instant, la science a des difficultés à donner des réponses précises. Donc ça a une importance très importante parce que en fonction du niveau des impacts, en fonction de leur ampleur, les mesures qu'on doit prendre ne sont pas forcément les mêmes. Et comme les mesures qu'on doit prendre sont parfois un peu difficiles, peuvent coûter de l'argent, il est très important d'avoir une idée très précise de ce qui peut se passer dans le futur.
On pourra mieux anticiper, c'est ça?
On pourra beaucoup mieux anticiper, on pourra beaucoup mieux prévoir les risques, on pourra beaucoup mieux penser à ce qu'on doit faire en termes d'adaptation. Et donc c'est l'ensemble de ces décisions qu'on va devoir prendre qui nécessite d'avoir une connaissance plus précise que celle qu'on est capable d'avoir pour l'instant.
Alors vous parlez de décisions à prendre. Est-ce que à notre niveau, au niveau individuel, on peut changer la donne? On écoute quelques réactions recueillies dans notre micro-trottoir.
Oui, on peut changer la donne, mais il faut qu'à ce moment-là, tout le monde s'y mette. Et donc si on s'y met tous, oui, on peut le faire. Et des gestes très simples, ne pas gaspiller l'eau, l'électricité aussi, faire attention. Et bien penser à trier vos déchets dans les bonnes poubelles.
À notre niveau, bien sûr qu'on peut changer les choses. Ben, y a plein de petits gestes à faire quotidiennement. Que ce soit autant les transports, que ce soit les déchets qu'on produit avec le suremballage, son logement, c'est aussi un facteur de dépense énergétique. Ben, y a vraiment beaucoup de points à améliorer dans son quotidien et tout le monde peut le faire, vraiment tout le monde.
Changer la donne, alors là, ça me paraît mal parti. Et après, les gestes à adopter, je ne sais pas trop, parce que ceux qui prêchent, qui font des beaux discours, eux, ils se déplacent en jet privé. Donc, ça serait peut-être bien qu'ils donnent l'exemple.
Passer un peu moins de temps sous la douche, manger bio,
être végétarien, prendre un peu plus le vélo, marcher un peu plus.
Il y a plein de petits trucs qu'on peut faire dans la vie. Déjà, rien que recycler ses déchets, pas jeter ses trucs partout. Et puis ensuite, il faut que ça remonte. Plus il y aura de gens qui se mobiliseront pour le climat, plus les politiques vont entendre et plus il va y avoir des réactions. Et il y a déjà, on entend déjà dans les élections européennes des listes écologiques qui se présentent et c'est très bien.
Alors on connaît le fameux « Make our planet great again ». Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, au niveau individuel, pour lutter justement contre le réchauffement climatique? On a entendu pas mal d'initiatives. Qu'est-ce que vous pourriez peut-être ajouter?
Oui, alors j'ai beaucoup aimé toutes ces interventions en fait. On voit que, donc on a vu que c'était un problème de responsabilité. C'est effectivement avant tout un problème de responsabilité individuelle. Et il faut agir. Et donc on a vu plein d'idées pour des actions au niveau individuel qui ont été données. Donc, toutes celles qui ont été données étaient bonnes. Puis un autre maître mot qui est important, sur lequel je voudrais insister, c'est l'optimisme en fait. On a vu dans les réactions une très très grande différence en fonction de l'âge des gens qui intervenaient. Disons que pour tous les changements qu'il faudra faire, il est essentiel d'être optimiste. Et il est essentiel de penser que c'est possible de faire quelque chose et qu'on a plein de solutions à proposer. Et donc de ce point de vue-là, on voit vraiment une différence entre les générations. Les plus jeunes, maintenant, on voit que la société commence à frémir et tout le monde a envie de faire quelque chose. Effectivement, l'essentiel, c'est le transport, réduction de l'usage de l'énergie dans les transports. Donc là, il y a les petites choses, on peut prendre son vélo, etc. Mais il y a aussi des choses peut-être un peu plus importantes. Par exemple, la prochaine fois qu'on achète une voiture, acheter une voiture un petit peu plus petite parce que finalement, on n'a pas besoin d'une aussi grosse voiture, ou alors utiliser le covoiturage, ou alors faire en sorte de faire pression aussi sur les élus locaux pour développer le transport public. Une autre chose aussi qui est un peu de la responsabilité individuelle, qui va être essentielle dans les années qui viennent, c'est l'isolation des bâtiments. Et donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile parce que ça demande pas mal d'investissement. Donc l'État aide, les régions aident, les collectivités locales aident, mais finalement c'est quand même les individus qui doivent prendre les décisions pour leur maison individuelle ou pour les copropriétés. Et donc là, les individus vont avoir un rôle très très important. Et puis on a entendu parler de l'alimentation. L'alimentation, c'est effectivement quelque chose qui peut jouer un rôle important. On n'est pas obligé de ne plus manger de viande, mais peut-être que si on mange un peu moins de viande, c'est bien. Et donc ça, c'est des petites choses qui jouent un rôle important. Et puis il y a aussi des choses qui vont arriver maintenant où, à l'échelle individuelle, on va pouvoir vraiment agir. Par exemple, il y a une révolution qui est en train de se passer, c'est que l'énergie solaire et l'énergie éolienne sont devenues les sources d'énergie les moins chères pour produire l'énergie à peu près partout dans le monde. Donc ici en France, par exemple, on voit que des panneaux solaires, même sans subvention, vont bientôt permettre aux gens individuellement de produire une partie de leur électricité à un coût moins cher que celui de l'électricité qu'on achète sur le réseau. Donc ça veut dire que ça va devenir intéressant et utile pour les gens de faire ce qu'on appelle l'autoconsommation, c'est-à-dire de faire installer des panneaux solaires et de produire une partie de l'énergie renouvelable dont on a besoin.
Et alors, au-delà de ces actions du quotidien, qui sont très importantes, on l'aura compris, la mobilisation citoyenne revêt désormais différentes formes. Il y a les marches pour le climat, je pense que vous en avez bien sûr entendu parler. Il y a aussi des procès contre le gouvernement pour ses émissions de gaz à effet de serre, comme ça a été le cas aux Pays-Bas. Freddy Boucher, quel est votre regard sur ces actions citoyennes?
Donc, les actions citoyennes sont essentielles, parce que c'est elles, en fait, qui montrent la détermination de la population et qui indique aux hommes politiques qu'est-ce qu'attend la population. Au niveau politique, en fait, moi je suis assez optimiste aussi, contrairement à ce que disent beaucoup de personnes. Par exemple, cette révolution qu'on est en train de vivre, l'année dernière, pour les nouvelles usines pour produire de l'électricité au niveau mondial, 70% à peu près étaient des énergies renouvelables. Et ça, c'est parce que les énergies renouvelables sont devenues la source d'énergie la moins chère au niveau mondial. Et pourquoi c'est arrivé? C'est parce que la communauté européenne a imposé aux États membres de subventionner le solaire et l'éolien pendant les 20 dernières années. Et donc ça, c'est vraiment été une action politique au niveau des États et des institutions. Les associations ont joué un rôle parce qu'elles ont promu ces idées. Les individus ont joué un rôle aussi parce que c'est eux qui ont installé chez eux des panneaux solaires, c'est eux qui ont accepté ou pas d'avoir des éoliennes dans leur région. Et donc l'ensemble de tout ça a fait que finalement le prix du solaire et le prix de l'éolien a été divisé par deux régulièrement, typiquement tous les deux ou trois ans, et a chuté de façon vertigineuse. Et donc maintenant, grâce à ça, on va vivre une révolution. Et c'est un des éléments qui va permettre dans le futur de diminuer les émissions de dioxyde de carbone. Alors on voit que les gouvernements peuvent avoir des actions positives. Alors peut-être qu'elles ne sont pas toujours suffisantes. Quand on regarde le bilan, on voit actuellement qu'effectivement, il faudrait aller plus vite. Il y a plus de choses à faire. Et donc, ce que doivent faire les gouvernements maintenant, il y a quelques points clés. Par exemple, un des points clés, c'est le même que tout à l'heure, c'est celui qui est lié à l'isolation des bâtiments. Donc là, c'est un problème difficile parce que ça demande de l'investissement. Ça demande d'aider les personnes qui ne peuvent pas le faire à isoler leur maison. Ça demande d'isoler les bâtiments publics. Et donc là, c'est un point difficile parce qu'on a un problème de financement. Un autre exemple, c'est que les États doivent aussi faire en sorte d'accélérer la prochaine révolution qui va avoir lieu, qui va être positive. C'est la révolution des transports. En fait, prochainement, d'ici une dizaine d'années, les voitures électriques vont devenir essentiellement à base de batteries, vont devenir moins chères que les voitures thermiques habituelles. Et donc ça va être une source très importante de réduction des émissions de dioxyde de carbone. Et ça va être aussi quelque chose qui va améliorer beaucoup la pollution dans les villes. Et donc là, le rôle des gouvernements, c'est de faire pression sur les constructeurs d'automobiles pour aller un petit peu plus vite en imposant des normes. C'est aussi de faire en sorte que tout ça arrive de façon naturelle, que toutes les infrastructures soient prêtes. Donc le gouvernement a un rôle important à jouer de ce côté-là. Et puis finalement, peut-être que le rôle le plus important des gouvernements, c'est de faire en sorte qu'il y ait un climat de confiance autour de ces questions-là. Parce qu'on est en train de parler de transformations de la société qui sont majeures. Donc il faut vraiment que toute la population soit engagée dans ces transformations. Une bonne partie de la population est maintenant prête, mais ça implique, quand on a de telles transformations de telle ampleur, ben certains vont perdre leur emploi, d'autres vont en retrouver. Ces transformations vont probablement créer des emplois, mais il y aura beaucoup de réticences de la part de personnes qui vont risquer de se retrouver dans des situations difficiles à cause de ces transformations. Et donc pour mener à bien ces transformations en profondeur, il faut vraiment créer un climat de confiance. Et ça fait aussi partie de la responsabilité du gouvernement.
Alors, on va rester sur cette question de responsabilité du gouvernement, des sociétés. Alors, suite à notre publication sur les réseaux sociaux du thème de l'émission, les auditeurs ont été invités à réagir et à poser des questions sur notre numéro WhatsApp. On le rappelle, le 07 87 250 777. Et je vous lis une question qu'on a reçue. Si le dérèglement climatique provient bien de la pollution causée par le développement industriel, que faut-il pour que nos dirigeants prennent conscience qu'il faut passer d'urgence à un autre système de fonctionnement? Le remboursement des dégâts causés par les typhons coûte des milliards aux assurances, donc à nous, citoyens qui payons les assurances. Pourquoi ne pas dépenser ces milliards au développement durable? Fin de la question. Freddy Boucher, d'une manière plus générale, est-ce que vous pensez que le sujet des changements climatiques est suffisamment pris au sérieux par nos sociétés?
J'ai envie de répondre oui et non. En fait, toujours pour être optimiste. Parce que, comme je l'ai déjà dit auparavant, il y a de nombreuses choses qui ont été faites. On voit que la société est en mouvement. On voit des gens se militer pour le réchauffement climatique, pour lutter contre les problèmes écologiques dans des associations. On les voit agir individuellement. On voit beaucoup d'élus locaux qui prennent ça très au sérieux et qui sont très dynamiques pour faire plein de choses très intéressantes. On voit que les villes se mobilisent, on voit que les États se mobilisent, et l'ONU joue un rôle aussi important dans les négociations. Alors, malgré tous ces éléments positifs, il est vrai qu'on ne peut pas nier, comme le rappelle le GIEC, que pour l'instant, la vitesse à laquelle les transformations dont on a besoin ont lieu est trop lente. Et donc, il faut vraiment engager toute la société dans cette direction.
Alors, pour rappel pour nos auditeurs qui ne seraient pas au courant, le GIEC, c'est donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat à l'ONU. Et c'est le 8 octobre, donc ce lundi 8 octobre, qu'un rapport est sorti qui engage les États des transformations, je cite, « rapides et sans précédent ». Un engagement que les États ont approuvé. Freddy Boucher, est-ce qu'on va dans le bon sens à votre avis ou il y a encore beaucoup de chemin à faire ?
Oui, ce rapport est très intéressant, en fait, parce que lorsqu'il y a eu la COP 21 à Paris, donc des États qui vont subir des impacts très importants très rapidement, par exemple les îles du Pacifique, ont fait une pression importante avec l'aide d'autres pays pour qu'on change l'objectif de réduction des dioxydes de carbone pour que l'objectif en termes de température passe de 2 degrés à 1,5 degré. Mmh. Et donc c'est quelque chose qui a été approuvé lors de la COP 21. Alors la question était la suivante, c'était est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est souhaitable ? Et comment faire si jamais c'est possible ? Donc c'est pour répondre à ce type de questions que le système institutionnel a demandé au GIEC de faire ce nouveau rapport qui est paru lundi. Et donc, il y a des choses très importantes dans ce rapport. Par exemple, il a expliqué quelle différence il y a entre un réchauffement à 2 degrés ou un réchauffement à 1,5 degré.
Ça ne paraît pas beaucoup, la différence, mais j'imagine qu'elle est importante.
Ça ne paraît pas beaucoup, mais il faut voir que c'est, on parle d'une température moyenne. Et quelques degrés, c'est en gros la différence qu'il y a entre le nord de la France et le sud de la France.
Oui.
Et donc, on voit à ce moment-là, quand on regarde les différentes... le climat entre le nord de la France et le sud de la France, que quelques degrés, c'est beaucoup, en fait. Ça change complètement. Et donc, par exemple, ça peut avoir un impact très fort sur les écosystèmes, quelque chose dont on n'a pas parlé encore. Et donc, par exemple, dans ce rapport, il est écrit qu'avec 1,5 degré, il y a à peu près 10% des insectes, 8% des plantes et 4% des vertébrés qui vont perdre leur zone d'habitabilité habituelle. Alors que si on passe à 2 degrés, ben ces chiffres passent à 18% pour les insectes, 16% pour les plantes ou 8% pour les vertébrés. Un autre exemple, pour l'augmentation du niveau des océans, à l'échelle de 2100, lorsque le climat se serait stabilisé, on aurait une différence de 10 cm d'élévation au niveau de l'océan. Alors c'est pareil, on se dit, tiens, 10 cm, est-ce que c'est beaucoup ? Ça n'a pas l'air beaucoup. Et bien avec 10 cm de plus, en fait, on a 10 millions de personnes supplémentaires qui peuvent être exposées au risque de montée des océans. Là, on parle de risque de submersion lié à des tempêtes qui submergent des zones côtières, ou on parle de pays entiers qui peuvent être submergés. Mmh. Et donc, ces 10 millions de personnes, on voit que c'est des impacts qui sont vraiment très, très importants.
Avec cette problématique de réfugiés climatiques qui va de pair, j'imagine.
Exactement, oui, c'est vraiment des problèmes qui sont très importants. Donc une autre chose que nous dit le rapport du GIEC, c'est que effectivement c'est possible, et si on veut le faire, et je pense qu'il faut absolument le faire, il faut effectivement accélérer de façon très importante le rythme auquel on est en train de faire ces transformations. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces transformations sont possibles, on a tous les outils. Elle ne demande pas de nouvelles technologies. La technologie peut jouer un rôle important, elle jouera probablement un rôle important dans le futur, mais on n'a pas besoin vraiment de rupture technologique. On sait faire avec les technologies actuelles, on sait produire de l'énergie autrement. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça ne coûte pas forcément plus cher. Pour produire de l'énergie, ça coûtera probablement moins cher, une fois qu'on aura fait les investissements nécessaires. Et donc, la boîte à outils est là. Donc, il faut vraiment maintenant mettre la société en mouvement.
Alors, en ce qui concerne la France, la démission du ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot, il y a quelques semaines, a semblé interrogée sur la politique environnementale d'Emmanuel Macron. Comment cette démission a été perçue dans votre profession ?
Alors, on peut répondre à différents niveaux. Par exemple, Nicolas Hulot a dit, en démissionnant, qu'il pensait que ce qui avait été fait par ce gouvernement n'avait été fait par aucun gouvernement précédemment. Et que malgré cela, ce qui avait été fait était insuffisant. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec Nicolas Hulot sur cette remarque-là. C'est vrai que les gouvernements, en fait, quelle que soit leur couleur politique, progressivement prennent en compte les enjeux du réchauffement climatique. Et systématiquement, on a une amélioration. Et effectivement, cette amélioration, pour l'instant, elle est à un rythme qui n'est pas suffisant. Donc je n'ai pas envie de commenter plus au niveau politique, mais voilà, si on peut garder un seul message de Nicolas Hulot, c'est effectivement celui de la mobilisation complète de tout le monde, pour que ce frémissement qu'on sent partout dans la société devienne vraiment une ébullition et qu'on aille à fond dans ce changement de société qui sera positif pour tout le monde.
Alors Freddy Bouchon, on approche déjà de la fin de cette interview. Est-ce que vous auriez quelques derniers mots pour nos auditeurs, toujours dans cet élan d'optimisme dont vous nous parlez ?
Peut-être que je veux rappeler effectivement que les maîtres mots, c'est responsabilité, parce que on n'est peut-être pas responsable de ce qui s'est passé dans le passé, et peu importe après tout, mais par contre on est vraiment responsable de ce qui va se passer dans le futur. Le deuxième mot, c'est action. En fait, on peut agir, mais agir vraiment. Et donc l'ennemi, c'est le dioxyde de carbone. Donc l'ennemi, c'est une utilisation d'énergie qui consomme du pétrole, du gaz et du charbon. Il y a d'autres ennemis, mais c'est celui-là l'ennemi principal. Donc agissons pour ça. Et puis donc, optimisme et confiance et solidarité, c'est comme ça qu'on va arriver en fait à vraiment mettre en mouvement toute la société.
Eh bien, merci beaucoup pour ce message et merci d'avoir répondu à toutes nos questions avec votre regard d'expert. On vous dit peut-être à bientôt dans les studios d'Essentiel Radio.
Merci beaucoup à vous, merci de l'invitation.
Avec
merci
grand
à vos auditeurs pour ces questions.